quand j'avais 7 ou 8 ans. J'écoutais les cassettes de Raconte-moi une histoire. Je me souviens de l'une d'elles en particulier. J'étais chez ma grand-mère dans sa grande maison, c'était le soir. J'avais dû l'écouter avant de m'endormir. Une voix de femme racontait l'histoire de Pandore et de sa boîte. Je me souviens avoir été entièrement absorbée dans un monde fait de bruit, de cris, de sifflements, de malédictions. Mon imaginaire avait créé cette femme, lui avait donné chair, avec de longs cheveux noirs. Je sentais, je pouvais presque palper son envie irrépressible de se pencher pour ouvrir la boîte interdite. Cette boîte, incrustée de pierres précieuses, ciselée d'or fin. Je devinais que ce qu'elle contenait allait avoir des conséquences terribles. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être comme Pandore et de vouloir à tout prix, plus que n'importe quoi, l'ouvrir et enfin découvrir ce qu'elle contenait. Cette histoire m'a volé des nuits d'angoisse et de terreur, parce qu'elle est puissante et fondatrice. Comme le mythe d'Ève, je découvrais que ma soif de découverte, ma curiosité, renfermait le mal, et que les femmes, dont accessoirement je faisais partie, étaient responsables des malédictions qui frappaient le monde. Guerre, épidémie, famine, etc. Qu'il était dangereux de vouloir savoir, que c'était un péché comme tous les autres. La luxure, le plaisir, la gourmandise, le sexe, le corps, le mystère des femmes. Tout ça était maintenant lié à quelque chose d'effrayant. Une boîte sifflante que je devais garder fermée en moi, au risque de précipiter le monde tout entier dans l'enfer. Voici un récit qui alimente les fondations de notre société. Un récit qui fait peser sur nous un lourd fardeau de responsabilité et d'interdit. Un récit dont j'ai compris bien tardivement l'impact. C'est bien plus tard, par l'enseignement d'une sorcière, une vraie, pas une de conte de fées, que j'ai conscientisé à quel point la fiction et l'imaginaire étaient source de pouvoir et de transformation. C'est à elle aujourd'hui que je dédie ce projet. On fait mage à son œuvre et à son livre, Dreaming the Dark, dont voici un extrait. Retrouver notre pouvoir personnel est un voyage qui guérit, mais il n'est pas facile. Car la psyché humaine se forme à partir des relations qu'on a avec les autres gens, les choses et les institutions. C'est un miroir de la culture. Les relations qui nous sont familières et les institutions de notre culture sont liées au pouvoir sûr. Aussi, nos paysages intimes sont-ils ceux des récits de la mise à distance ? Et sont-ils peuplés de créatures qui dominent ou doivent être dominées ? Pour nous libérer, pour retrouver le pouvoir du dedans, le pouvoir de sentir, de guérir, d'aimer, de créer, de donner forme à notre avenir, de changer nos structures sociales, nous pouvons avoir à nous battre contre nos propres formes de pensée. Nous pouvons avoir à changer notre territoire intime autant que l'extérieur, et à nous confronter aux formes d'autorité que nous véhiculons en nous. Car nous faisons la culture à notre image, comme elle nous fait à la sienne. Si nous n'acceptons pas de nous confronter à nous-mêmes, nous risquons de reproduire le paysage de la domination dans les structures mêmes que nous créons pour combattre l'autorité. Le changement est effrayant, mais les sorcières ont un dicton. Où il y a de la peur, il y a du pouvoir. C'est exactement ce que je vous propose avec cet appel à texte et à récit. C'est de profiter de cette période de confinement pour aller sonder vos récits, vos imaginaires, vos monstres, discuter avec eux. Souvent, on oublie le pouvoir magique de la fiction. Rappelez-vous, dans l'histoire sans fin, le monde disparaît parce qu'on cesse de croire en son existence. Il faut que quelqu'un le raconte, que cet enfant le lise, le voie dans sa tête pour qu'il se mette à vivre. Et si pour notre monde c'était la même chose? Et si nous pouvions transformer nos récits de domination, d'inégalité, de violence, de péché en des histoires d'échange, de joie, d'humanité, de partage, de coexistence paisible et riche avec le vivant, de beauté. Pour stimuler vos imaginaires, pour vous encourager à plonger dans vos abysses personnels, le projet va vous accompagner à travers 7 sessions sonores qui seront diffusées sur Radio Panique. Différents artistes vont faire l'exercice avec vous de rêver l'obscur. Demain, le monde après la pandémie, à quoi ressemblera-t-il? Mettez-le en mots, qu'il soit écrit ou parlé et raconté. Partagez pour que toutes ces visions puissent contribuer à créer un nouveau demain. Tous vos textes, qu'ils soient écrits ou racontés et enregistrés, sont attendus sur ma boîte mail pour le 15 mai à minuit au plus tard. Vous trouverez toutes les informations et détails de participation sur la page Facebook de l'événement Dreaming the Dark, appel à texte et à récits écoféministes. Tout le monde est bienvenu pour participer, pas de conditions d'âge ou de sexe. Tous vos textes et récits seront diffusés grâce à nos collaborations. Merci à LE, à Radio Panique, le collectif Xeno, l'ASBL Femprod. Alors, n'ayez plus peur d'ouvrir la boîte de Pandore, libérez vos créatures, vos mondes intérieurs. Que vos mots soient magiques et votre parole empouvoirante. Dans cette deuxième session sonore, ce sont 5 artistes de Xeno qui vont prêter leur voix pour vous faire découvrir 5 grands noms de la littérature de science-fiction écoféministe et queer. Passoire, qui lira un extrait de Rêver l'obscur, Femme, magie et politique de Starhawk. Yasmine, qui lira un extrait de Danser au bord du monde, Mots, femmes, territoire de Ursula Le Guin. Tilk, qui lira un extrait de Blue Child and Other Stories de Octavia Butler. Diana, qui lira un extrait de Staying with the Trouble, Making Kin in the Cthulhu Sen by Donna Haraway. Et Jihan, qui lira un extrait de Toxoplasma de Sabrina Calvo. Prenez de quoi noter auprès de vous et laissez les mots monter. Belle séance d'écoute.
Pouvoir sûr et pouvoir du dedans. Extrait. Le sujet de ce livre est cet appel au pouvoir, un pouvoir basé sur un principe très différent du pouvoir sûr, de la domination. Car le pouvoir sûr est finalement le pouvoir du fusil et de la bombe, le pouvoir d'anéantissement qui soutient toutes les institutions de domination. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot pouvoir, qui vient du latin populaire, podere, être capable. C'est le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir du dedans. Il y a beaucoup de noms pour le pouvoir du dedans, dont aucun n'est entièrement satisfaisant. Il peut être appelé esprit, mais alors cela le sépare de la matière, et cette fausse coupure fonde les institutions de domination. Il pourrait être appelé Dieu, mais le Dieu des religions patriarcales a été la source ultime et le dépositaire du pouvoir sûr. Je l'ai appelé immanence, un terme, à dire vrai, froid et intellectuel. Et je l'ai appelé la déesse, car les anciens mythes, symboles et images de la déesse, comme l'enfantement, le tissage, la terre, la croissance des plantes, le vent, l'océan, la flamme, le tissu, la lune et le lait, me parlent tous des pouvoirs de ce qui connecte, nourrit, guérit et crée. Le mot déesse gêne beaucoup de personnes qui se définissent comme des politiques. Oui, le pouvoir du dedans est le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre. Le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. Et les enjeux politiques de notre temps sont aussi des enjeux spirituels, des conflits entre des paradigmes ou des principes fondamentaux. Si nous voulons survivre, la question devient: comment renverserions-nous, non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr? Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans? Un changement de paradigme, de conscience est toujours incommodant. Chaque fois que nous éprouvons la sensation légèrement effrayante, légèrement embarrassante que produisent des mots comme « déesse », nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le chemin d'un profond changement dans la structure et le contenu de notre pensée. Pour conférer une forme nouvelle au principe même du pouvoir sur lequel est basée toute notre culture, nous devons ébranler toutes les vieilles divisions. Les séparations confortables ne sont plus opérantes. Les problèmes sont plus vastes que ne l'impliquent les termes de religieux et politique. Ce sont des problèmes de connexion complexe. Car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près de volcans en activité en Philippines. Toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modère nos relations de pouvoir. Ces relations, à leur tour, engendrent notre système économique et social, notre science, nos religions, nos idées à propos des hommes et des femmes, notre approche des races et des cultures qui diffèrent de la nôtre, notre sexualité, nos dieux et nos guerres. Actuellement, elles préparent la destruction du monde. J'appelle cette conscience mise à distance, car son essence est de nous faire voir nous-mêmes à l'écart du monde. Nous sommes à la distance de la nature, des autres êtres humains, et même de certaines parties de nous-mêmes. Nous voyons le monde comme constitué de parties divisées, isolées, sans vie, qui n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Elles ne sont même pas mortes, car la mort implique la vie. Parmi les choses divisées et sans vie, les seules relations de pouvoir possibles sont celles de la manipulation et de la domination. La mise à distance est l'aboutissement d'un long processus historique. Il s'enracine dans la transformation, à l'âge du bronze, de cultures fondées sur la mer et la terre, dont les religions s'adressaient à une déesse et à des dieux faisant corps avec la nature, vers des cultures urbaines, patriarcales, conquérantes, dont les dieux inspiraient et soutenaient les guerres. Yahvé de l'Ancien Testament en est le premier exemple, lui qui promet à son peuple élu la maîtrise sur le règne animal et végétal, et sur les autres peuples, qui l'encourage à envahir et à dominer. Le christianisme a approfondi cette séparation en établissant une dualité entre l'esprit et la matière, qui identifie la chair, la nature, la femme et la sexualité avec le diable et les forces de l'enfer. Dieu a été représenté comme un homme mâle, non contaminé par les processus de la naissance, des soins nourriciers, de la croissance, de la menstruation et de la corruption. Il a été enlevé de ce monde vers un royaume spirituel transcendant, quelque part ailleurs. Les valeurs de bonté et de vérité ont été retirées à la nature et au monde. Comme le dit Engel, la religion vide fondamentalement l'homme et le monde de tout contenu. Elle transfère ce contenu à un fantôme de Dieu distant, qui lui-même alloue un peu de son abondance aux êtres humains et à la nature. Le retrait du contenu, de la valeur, sert de fondement à l'exploitation de la nature. L'historien Lynn White a affirmé que, quand les esprits contenus dans les objets qui avaient auparavant protégé la nature de l'homme se sont évaporés, sous l'influence du christianisme, le monopole effectif de l'homme sur l'esprit dans ce monde a été confirmé, et les vieilles inhibitions concernant l'exploitation de la nature se sont effondrées. Les forêts et les bois n'ont plus été sacrés. Le concept de bois sacré, d'un esprit faisant corps avec la nature, a été considéré comme idolâtre. Mais quand la nature est vide d'esprit, la forêt et les arbres ne sont plus que des troncs, des choses à mesurer en stère, valables seulement pour leur rentabilité et non pour leur existence ou leur beauté, ou même comme partie d'un écosystème plus vaste. La dévalorisation des êtres humains autorise la formation de relations de pouvoir dans lesquelles les êtres humains sont exploités. La valeur intrinsèque, l'humanité est réservée à certaines classes, à certaines races, au sexe masculin. Leur pouvoir sur les autres est ainsi légitimé. La représentation masculine de Dieu fait des hommes les véritables porteurs de l'humanité et légitime la loi masculine. La blancheur de Dieu, l'identification du bien avec la clarté et du mal avec l'obscurité, rend la blancheur porteuse d'humanité et légitime la suprématie des blancs sur ceux qui ont une peau noire. Même quand nous ne croyons plus, au sens littéral, en un Dieu blanc et mâle, Les institutions de la société intègrent son image à leur structure. Les femmes et les personnes de couleur ne sont pas présentées au niveau les plus élevés de la hiérarchie qui détient le pouvoir sûr. Notre histoire, notre expérience, notre présence peuvent être effacées, ignorées, banalisées. Le contenu de la culture est assimilé à l'histoire des mâles blancs, de la classe supérieure. La souffrance de tous ceux d'entre nous qui sont jugés autres, les pauvres et les classes ouvrières, les lesbiennes et les homosexuels, les handicapés, ceux qui ont été étiquetés malades mentaux, l'arc-en-ciel des différentes races, religions et héritages ethniques, toutes les femmes, mais surtout celles qui ne rentrent pas dans les rôles culturellement définis, n'est pas la souffrance d'une simple discrimination, mais celle d'une négation répétée sans cesse. C'est la souffrance de savoir que nos intérêts ne seront pas pris en compte, à moins que nous ne les défendions nous-mêmes. Et que, dans ce cas encore, ils seront considérés comme périphériques pour la culture, l'art et la politique. Dans
The Death of Nature,
Caroline Merchant montre comment la naissance de la science moderne et les besoins du proto-capitalisme au XVIe et XVIIe siècle ont déplacé l'image normative du monde de celle d'un organisme vivant vers celle d'une machine morte. Ce déplacement, accompagné et aidé par les persécutions des sorcières, a permis l'exploitation de la nature à une échelle jusque-là inconnue. Dans ce monde vide, nous ne croyons qu'à ce qui peut être mesuré, compté, acquis. Le principe d'organisation de la société devient ce que Marcus a appelé le principe de performance. La stratification de la société d'après la performance économique de ses membres. Le contenu est retiré du travail lui-même, qui est organisé non pas en fonction de son utilité réelle, mais d'après sa capacité à engendrer des profits. Ceux qui produisent réellement des biens ou des services sont moins bien rémunérés que ceux qui se consacrent à les diriger, à comptabiliser les recettes ou à stimuler de faux besoins. Extrait de Révèle Obscur, 1982, États-Unis, par Starwalk. Starwalk est née en 1951 aux États-Unis. C'est une écrivaine, formatrice et militante altermondialiste. Théoricienne du néopaganisme, c'est une figure du mouvement Wicca. Elle se définit elle-même comme féministe et sorcière, se réappropriant cette figure subversive en vue d'unifier spiritualité et politique.
Bonjour, bonsoir, ou ce que vous voulez, de là où vous êtes. Je suis Yasmine Yeten et je vais vous lire un extrait de « Danser au bord du monde », mots, femmes, territoire, de Ursula K. Le Guin. J'ai choisi de vous en présenter quelques morceaux que je me suis amusée à découper dans le texte. J'espère qu'ils s'enchaîneront bien et qu'ils vous permettront de découvrir cette autrice. En deux mots, Ursula K. Le Guin est née en 1929 et est morte en 2018. C'est une écrivaine américaine de science-fiction et de fantasy. Elle a écrit des romans, des nouvelles, des poèmes, des livres pour enfants et des essais. Elle est surtout connue à partir des années 60 pour ses nouvelles et romans de fantasy et de science-fiction, dans lequel elle s'est distinguée par son exploration des thèmes anarchistes, taoïstes, féministes, ethnologiques, psychologiques ou sociologiques. Bonne écoute à vous. Danser au bord du monde, mots, femmes, territoire, de Ursula K. Le Guin. Le sujet de mon expérience était donc, en raison du conditionnement social que nous subissons tout au long de notre vie, nous avons du mal à percevoir clairement ce qui, au-delà de la forme et de la fonction purement physiologique, différencie les hommes et les femmes. Existe-t-il de réelles différences de tempérament, d'aptitude, de talent, de mécanismes psychiques, etc. Et si oui, lesquelles ? À ce jour, l'ethnologie comparée est l'unique discipline capable de fournir des données concrètes en la matière, données d'ailleurs souvent incomplètes et contradictoires. Et les seules expérimentations vraiment pertinentes sont les kibbutzim et les communes populaires chinoises. Mais là encore, difficile d'en tirer des conclusions imparables, sans compter qu'il est difficile d'obtenir des informations impartiales. Alors comment savoir ? Ma foi, on peut mettre un chat dans une boîte, ou envoyer un jeune terrien imaginaire assez conformiste, voire un peu guindé, jouer les ambassadeurs auprès d'une civilisation également imaginaire qui ignore tout des rôles sexuels, pour la bonne raison que ses ressortissants ne présentent pas la moindre différenciation sur ce plan. En bref, j'ai éliminé l'identité de genre pour voir ce qu'il resterait. Selon toute probabilité, me disais-je, la part restante serait, tout simplement, l'humain. Elle délimiterait strictement ce qu'hommes et femmes ont en commun. Je continue de penser que c'était une chouette idée, quoiqu'un peu cafouilleuse comme expérience, le bilan était incertain, car la même idée, reproduite par une autre personne, ou par moi, 7 ans plus tard, aurait sans doute donné des résultats fort différents. Scientifiquement parlant, ce n'est pas très honorable, mais peu importe, je ne suis pas une scientifique. Dans ma partie, les règles du jeu changent constamment. Parmi les conclusions douteuses, hasardeuses, auxquelles je suis parvenue en réfléchissant assidûment à mes personnages imaginaires et en écrivant leurs histoires, j'en retiens néanmoins 3 qui me semblent assez intéressantes. Premièrement, pas de guerre. De mémoire de Guéthénien, il n'y a pas eu une seule guerre en 13 000 ans d'histoire. Les gens sont aussi querelleurs et agressifs que nous, aussi portés sur la concurrence. On trouve chez eux des bagarres, des meurtres et des assassinats, des vendettas, des razzias et ainsi de suite. Mais pas de grandes invasions, de peuples qui s'approprient tout sur leur passage, comme les Mongols en Asie ou les Blancs dans tout le Nouveau Monde. Les populations guéthéniennes, de par l'appartente constante de leur densité, ne se déplacent pas en masse. Et les migrations sont lentes, chaque génération franchissant une distance modeste. Il n'y a ni peuple nomade, ni civilisation fondée sur l'expansion et l'attaque des contrées voisines. Les Guéthéniens ne sont pas non plus répartis en grandes états-nations hiérarchisées, et on sait combien ces entités mobilisables sont l'élément clé des guerres modernes. Partout, la cellule sociale de base est, typiquement, un ensemble de 200 à 800 personnes appelées foyers. On se passe de concepts patriarcaux tels que droit divin, patriotisme, etc. Le rite et la parade sont bien plus efficaces en termes de maintien de l'ordre que l'armée et la police. La structuration en classe sociale est souple et ouverte. La hiérarchie sociale se fonde sur des critères plus esthétiques qu'économiques et on ne constate pas de fortes disparités entre riches et pauvres. Ni l'esclavage, ni le servage n'existent sur Guéthène. Nul n'y est la propriété d'autrui. La notion de bien mobilier est inconnue. Plus que capitaliste, le modèle économique est du type communautaire ou syndicataire et revêt rarement un aspect ultra-centralisé. Deuxièmement, aucune notion d'exploitation. Les Guéthéniens ne violent pas leur planète. Ils disposent d'une technologie avancée et d'une industrie très développée. Ils ont des voitures, la radio, des explosifs et ainsi de suite. Mais ils ne sont parvenus à ce stade qu'au terme d'un processus très lent et ont absorbé cette technologie au lieu de se laisser déborder par elle. Ils ne connaissent pas le mythe du progrès. Sur leur calendrier, l'année en cours est toujours l'an 1, et on compte à partir de lui dans un sens comme dans l'autre. Le troisième point, je vous laisserai le découvrir tout seul. À la fin, l'auteur termine par des regrets sur son œuvre. Elle revient quelques années plus tard sur ce qu'elle a écrit avant. Et je voulais vous faire part d'un des regrets qui m'a touchée. Je regrette encore plus les petites lâchetés et les marques d'incompétence dont j'ai fait preuve en extrapolant les conséquences sur la psyché guénétienne des particularités psychologiques de mes personnages. Pour ne citer que cet exemple précis, en ce temps-là, je n'avais pas lu Jung, et je le regrette. J'aurais pu décréter que les Guéthéniens n'avaient ni animus, ni anima, ou qu'ils avaient les deux, à moins qu'ils n'aient un animum. Je les ai enfermés dans l'hétérosexualité.
J'étais décidément d'un pragmatisme bien naïf dans ma vision de la sexualité. Pourquoi affirmer que les partenaires devaient absolument appartenir au sexe opposé ? Les pratiques homosexuelles auraient naturellement dû être possibles, acceptables et même bien vues dans toutes les maisons de cummer. Et je n'ai pas pensé une minute à explorer cette possibilité. Par cette omission, je laisse entendre, hélas, qu'il n'y a de sexualité qu'hétérosexuelle. J'en suis sincèrement navrée. Voilà, j'espère que cette petite lecture de mise en bouche de cette œuvre vous donnera envie de la découvrir. Merci de l'écoute et à bientôt.
Hello everyone, I'm Tilke and today I'm reading to you from Octavia Butler's book Bloodchild and Other Stories. Octavia Butler was an African-American science fiction author, a multiple recipient of both the Hugo and Nebula Awards. In 1995, she was the first science fiction writer to receive a MacArthur Fellowship. Bloodchild and Other Stories is a collection of science fiction stories and essays. The story Bloodchild describes the unusual bond between a race of insect-like life forms called the Tlik and a colony of humans who have escaped Earth and settled onto the Tlik planet. When the Tlik realize the humans make excellent hosts for Tlik eggs, they establish the preserve to protect the humans and in return require that every family chooses a child for implantation. And this is a story I will be reading from to you today. Bloodchild. My last night of childhood began with a visit home. Tagatwa's sister had given us two sterile eggs. Tagatwa gave one to my mother, brother, and sister. She insisted that I eat the other one alone. It didn't matter. There were still enough to leave everyone feeling good. Almost everyone. My mother wouldn't take any. She sat watching everyone drifting and dreaming without her. Most of the time, she watched me. I lay against Tagatwa's long velvet underside, sipping from my egg now and then, wondering why my mother denied herself such a harmless pleasure. Less of her hair would be grey if she indulged now and then. The eggs prolonged life, prolonged vigor. My father, who had never refused one in his life, had lived more than twice as long as he should have. And towards the end of his life, when he should have been slowing down, he had married my mother and fathered 4 children. But my mother seemed content to age before she had to. I saw her turn away as several of Tagatwa's limbs secured me closer. Tagatwa liked our body heat and took advantage of it whenever she could. When I was little and at home more, my mother used to try to tell me how to behave with Tagatwa. How to be respectful and always obedient, because Tagatwa was the Tlik government official in charge of the preserve, and thus the most important of her kind to deal directly with Terrans. It was an honor, my mother said. Such a person had chosen to come into the family. My mother was at her most formal and severe when she was lying. I had no idea why she was lying or even what she was lying about. It was an honor to have Tagatwa in the family, but it was hardly a novelty. Tagatwa and my mother had been friends all my mother's life. And Tagatwa was not interested in being honored in the house she considered her second home. She simply came in, climbed onto one of her special couches and called me over to keep her warm. It was impossible to be formal with her while laying against her and hearing her complain, as usual, that I was too skinny. "You're better," she said this time, probing me with 6 or 7 of her limbs. "You're gaining weight, finally. Thinness is dangerous." The probing changed suddenly, became a series of caresses. "He's still too thin," my mother said sharply. Tagatwa lifted her head and perhaps a meter of her body off the couch as though she was sitting up. She looked at my mother and my mother, her face lined and old-looking, turned away. "Lean, I would like you to have what's left of Gan's egg." "The eggs are for the children," my mother said. "They are for the family. Please take it." Unwillingly obedient, my mother took it from me and put it to her mouth. There were only a few drops left in the now shrunken, elastic shell, but she squeezed them out, swallowed them, and after a few moments, some of the lines of her tension began to smooth from her face. "It's good," she whispered. "Sometimes I forget how good it is." "You should take more," Tagatwa said. "Why are you such a hurry to be old?" My mother said nothing. "I like being able to come here," Tagatwa said. "This place is a refuge because of you. Yet you won't take care of yourself." Tagatwa was hounded on the outside. Her people wanted more of us than made available. Only she and her political fraction stood between us and the hordes who did not understand why there was a preserve, why any Terran could not be courted, paid, drafted, in some way made available to them. Or they did understand, but in their desperation they did not care. She parceled us out to the desperate and sold us to the rich and powerful for their political support. Thus, we were necessities, status symbols, and an independent people. She oversaw the joining of families, putting an end to the final remnants of the earlier system of breaking up Terran families to suit impatient clique. I had lived outside with her. I had seen the desperate eagerness in the way some people looked at me. It was a little frightening to know that only she stood between us and that desperation that could so easily swallow us. My mother would look at her sometimes and say to me, "Take care of her." And I would remember that she, too, had seen outside. Now Tagatwa used four of her limbs to push me away from her onto the floor. "Go on, Jen," she said. "Sit down there with your sister and enjoy not being sober. You had most of the egg. Lean, come warm me." My mother hesitated for no reason that I could see. One of my earliest memories of my mother were stretched alongside Tagatwa, talking about things I could not understand, picking me up from the floor and laughing as she set me on one of Tagatwa's segments. She ate her share of eggs then. I wondered when she had stopped and why. She lay down now against Tagatwa and the whole left row of Tagatwa slimmed close around her, holding her loosely but securely. I had always found it comfortable to lie that way, but except for my older sister, no one else in the family liked it. They said it made them feel caged. Tagatwa meant to cage my mother. Once she moved her tail slightly, then poke. "Not enough egg, Lean. You should have taken it when it was passed to you. You need it badly now." Tagatwa's tail moved once more in a whip motion so swift it would have been seen if I hadn't been watching for it. Her sting drew only a single drop of blood from my mother's bare leg. My mother cried out, probably in surprise. Being stung doesn't hurt. Then she sighed and I could see her body relax. She moved languidly into a more comfortable position within the cage of Tagatwa's limbs. "Why did you do that?" she asked, standing half asleep. "I could not watch you sitting and suffering any longer." My mother managed to move her shoulders in a small shrug. "Tomorrow," she said. "Yes, tomorrow you will resume your suffering if you must. But just now, just for now, lie here and warm me and let me ease your way a little." "He is still mine, you know," my mother said suddenly. "Nothing can buy him from me." Sober, she would not have permitted herself to refer to such things. "Nothing," Tagatwa agreed, humoring her. "Did you think I would sell him for eggs, for long life, my son?" "Not for anything," Tagatwa said, stroking my mother's shoulders, toying with her long graying hair. I would like to have touched my mother, shared that moment with her. She would take my hand if I touched her now. Freed by the egg and the sting, she would smile and perhaps say things long hold in. But tomorrow she would remember all of this as humiliation. I did not want to be part of a remembered humiliation. best just to be still and know she loved me under all the duty and pride and pain. My older sister took off the shoes of my mother, swaying me drunkenly as she stood up. When she had finished, she sat down beside me and took my hand. We had always been a unit, she and I. My mother put the back of her head against Tagatwa's underside and tried, from that impossible angle, to look up into the broad, round face. "You're going to sting me again?" And this is where I'm going to end for today. If you want to read the whole part, please look up the book, buy it, or there are probably like ways to find it on the internet. I hope you enjoyed it and see you soon.
The point until now, it's up to us to bring it back in present forms. Hello everyone, my name is Diana Dobrescu. I'm a transmedia artist, locked down like all of you motherfuckers, and I will read to you a chapter of Donna Haraway's writing, Staying in the Trouble, Making Keen of the Cthulhu Scene, which is an essay quite provocative to reconfigure our relationship as humans to planet Earth, as being inhabitants of this planet. So I've been working on transmutation. I've been working especially on metamorphoses and how we adapt as artists to situations. So myself, I've been questioning a lot around the capacity of reinventing mediums and self according to politics, obviously. In this chapter, Haraway is pointing out the importance of remembering the animal instincts in the pedagogical process of rising up life. Life. May you sit down, have a tea, anything comfortable, a joint, a cigarette, and have a trip with me. The decision to bring a new human infant into being is strongly structured to be a collective one for the emerging communities. No one can be coerced to bear a child or punished for birthing one outside community auspices. The children of Compost nurture the born ones every way they can, even as they work and play to mutate the apparatuses of kin making and to reduce radically the burdens of human numbers across the earth. Although this courage in the form of individual decisions to make a new baby, reproductive freedom of the person is actively cherished. This freedom, most treasured power, is the right and obligation of the human person of whatever gender who is carrying a pregnancy to choose an animal symbiont for the new child. All the new members of the group who are born in the context of community decision making come into being as symbionts with criteria of actively threatened species. And therefore, with the whole pattern fabric of living and dying of those particular beings and all their associates for whom
the possibility of a future is very fragile. Human babies born through individual reproductive choices do not become biological symbionts, but they do live in many other kinds of symbiosis with human and non-human critters. Over the generations, the communities of compost experience complex difficulties with hierarchical caste formations and sometimes violence, clashes between children and born as symbionts. Well, and those born as more conventional humans, individuals. Sims and non-sims sometimes literally did not see eye to eye easily. The animal symbionts are generally members of migratory species, which critically shapes the line of visiting, working, and playing for all the partners of the symbiosis. The members of the symbiosis of the children of compost, human and non-human, travel or depend on associates that travel. Corridors are essential to their being, because the animal patterns in the symbiosis are migratory. Each human child learns and lives in nodes and pathways. With other people and their symbionts in the alliance of collaborations needed to make ongoingness possible. Literally and figuratively, retaining the mind to the visit. Lifelong pedagogical practice in these communities needed. Together and separately, the science and arts are passionately practiced and enlarged as means to attune rapidly evolving ecological, natural, cultural communities, including people, to live and die well throughout and dangerous centuries of irreversible change. The treasured power of individual freedom for the new child is to choose a gender or not. When, if the patterns of living and dying evoke that desire, bodily modifications are normal among camel's people. And at birth, a few genes and a few microorganisms from the animal symbionts are added to the sim child's body heritage. So that sensitivity and response to the world as experienced by the animal creatures can be more vivid and precise for the human member of the team. The animal partners are not modified in these ways, although the ongoing relationships with lands, water, people, and people's creatures render them newly capable in surprising ways too, including ongoing echo, vedo, dido, biological changes throughout life. The human may adopt further bodily modification for pleasure and aesthetics, or for work, as long as the modification tend to symbionts' well-being in the humus of symbiosis. deep in us. For we live still in our own wounds, and pain is salt in us, burning. Flush it out, let the pain become a sound, a living river on the breath, yeah. Raise your voice, child, cry out, scream, wail, keen and mourn, for the dismembering of this world. That's all for Dance Divine. You can check my stuff online. And all of you who listen to me, remember, we are all the daughters of the witches they didn't manage to burn. Yeah.
Bonjour, je m'appelle Gianni Mago et je vais vous lire un extrait de Toxoplasma pour Xeno. Tout d'abord, un mot sur l'auteur Sabrina Calvo. C'est une écrivaine, dessinatrice et conceptrice de jeux vidéo née à Marseille en 1974. Reconnue pour son sens inné du merveilleux, explorant une science-fiction queer et sensuelle empreinte de fantastique, elle vit entre Zanzibar et Paris. Le roman se situe après la Révolution. L'île de Montréal est assiégée, ses ponts bloqués par l'armée fédérale. Partout dans les rues se déchirent les partisans de l'ancien monde libéral et ceux qui aspirent à une société anarchiste, transformant le paysage urbain en un champ de ruines festif où survivent des communautés humaines en pleine recomposition. Au cœur de ce chaos, Nikki Chanson bosse dans un vidéoclub. Paumée mais pleine de talents cachés, elle partage son temps entre la refourgue de mauvais films aux mauvaises personnes, les enquêtes sur des faits divers sordides et les soirées films en compagnie de Kim, coureuse des bois virtuels. Mais entre ses hallucinations en VHS et ses rêves de forêt détruite, le quotidien de Nikki menace de s'engouffrer dans une conspiration meurtrière à laquelle elle ne pourra échapper que grâce au soutien de sa copine et d'une marionnette d'un show pour enfants qui n'est autre qu'un chien mort. À la fois portrait drôle et poétique d'une société contemporaine qui part en capilotage, thriller antispéciste et déclaration d'amour au nanar d'horreur. Toxoplasma emporte le lecteur à l'orée d'un monde fantastique qui pourtant est bel et bien le nôtre. Toxoplasma a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2018. Vimère, plus forêt non, désastre. Une terre éventrée de racines, racines d'arbres noyées dans la boue. Cette dévastation de troncs tresse un labyrinthe sans issue et teinte les rhapsodies d'oiseaux. Au loin tonne un grondement sourd. Mousses et feuilles accueillent les larmes du ciel comme une consolation. Une silhouette danse au fond du bois brisé. Ses mains tracent dans la désolation la figure d'une folle d'une... Nikki ouvre les yeux. Signal d'alarme au fond du ventre, pipi ou bien terreur. Un drap tout fin colle son corps couvert de sueur. Dehors, nuit partout. Des images d'un rêve en VHS remontent lentement, mosaïque saturée par le rafraîchissement de son monde intérieur. Nikki se souvient d'un malaise dans les vestiges d'une forêt sylvestre anéantie. Un mouvement imperceptible, un geste peut-être. Nikki avait déjà émergé plus tôt au son d'un bourdon sur les feuilles de l'érable à giguère devant la fenêtre. Mais ce qui vient de l'arracher au songe dans cette lueur morne d'un 4 heures du matin n'est pas l'impact d'une pluie. Elle se redresse sur ses coudes, à l'affût d'un bruit dans la pénombre. Ses sens s'éveillent à l'accident. Une note lente rompt le silence. une plainte aiguë montée le long d'une gorge qu'on jurerait étranglée. Un « Mamé !» qui s'étire sans montrer de point de rupture. Nicky pense immédiatement à ces pleurnicheries de félins qui irriguent la ruelle au moment du rut. Torrent de « miaou » strident dans les jardins. Mais quelque chose dans cet appel au secours sonne faux. Trop humain. Elle se lève, pose ses mains sur le rebord de la fenêtre, scrute la ruelle. Tout lui, tout flou. Les murs livrent des secrets d'ombre rampant sur les parpaings ou le long des fils électriques. Reflet d'une lune invisible, le frémissement des feuilles. La plainte s'est éteinte. « Hum !» dit Nicky en se grattant l'oreille. Un bourdon persistant lui démange le tympan. Elle pisse quasi somnambule, pensive sur la cuvette des toilettes. Douglouglou. Ses pensées confuses lui rappellent la forêt ravagée. Ce geste qu'elle a encore du mal à percevoir. Un adieu. Elle revient dans la chambre en traînant la patte, tire le drap, déplace ses jambes dans une empreinte oubliée dans un recoin du matelas, retrouve le chemin du sommeil. Quoi t'as dit ? Nicky Chanson. Nicole ? Peut-être. Old school. Chill. Elle fait quoi, Nicole Chanson ? Détective à chat. What ? Elle cherche les chats perdus dans son quartier. Pff, toutes tes expériences. T'as pas autre chose à foutre, là, que de me beurrer la face ? Ça compile. Je te vois, tu sais. Quand est-ce que tu accepteras de te pogner une pitoune qui soit pas un genre d'artiste complètement taré ? Elle bosse aussi dans un vidéoclub. Ah ouais. Est-ce que t'es bien sûr dans ton cœur, dans ce petit cœur que t'a donné la déesse ? T'es bien certaine, sans l'ombre d'un doute, que tu fais absolument tout ton possible pour bien essayer de fermer ta putain de gueule ? Il est 7h, Montréal. T'es ben belle ce matin, mais franchement, tu m'étouffes. Nicky baille, posée sur sa terrasse. Son thé au chocolat refroidi. La ruelle est silencieuse. Il est trop tôt. Personne n'est levé. Pas la violoniste de l'appartement voisin, ni Mommy, la vieille dame qui habite en face de l'autre côté de la ruelle. Aucun oiseau. Les cigales lancent une première stridence, vrille issue des contorsions du bois autour des câbles électriques. Un moment sacré. Ce point du jour où Nicky ne sait pas quoi faire ni comment elle va le faire. Chaud, sérieux, je commence à avoir peur que les troupes massées au bout des ponts ne se décident à nous charger pour avoir le droit d'aller un peu à la plage. Faut les comprendre un peu sous ces casques-là et dans leur esti de tank. Des jeunes ont laissé des bières près des barrelles peintes sur l'asphalte. Probablement vomis de la salle de concert au coin de dont la faune hante l'allée à des heures impossibles. Plus personne ne se plaint du vacarme nocturne depuis la proclamation de la commune. À quelle heure sont-ils venus poser leur cul ? Avant la plainte qu'il avait réveillée à 4 heures ? Nicky essaye de ressusciter ce son. Ni pleurs, pas un miaulement, non. Une plainte d'enfant. Elle ne trouve que ce buzz qui continue à la gratter dans l'oreille. Radio GRA ne lâche rien. On crèvera avant de laisser ses fils de chameau boire dans. Attends. Ouais, alors on dit que c'est au parc de Gaspé que nos camarades ont fait la découverte d'un raton laveur mort, dépecé et décapité dans une balançoire. Tout le monde sait que ces bibites ne sont guère appréciées, mais ah, franchement, vous abusez les champs. Nicky en mord sa tasse. De Gaspé, 2 blocs plus haut dans le quartier. S'en prendre un raton laveur, grrr. Elle se demande si le cri de cette nuit n'était pas ce raton laveur qu'on a retrouvé mort dans ce parc pas loin qu'elle fréquente parfois en début de soirée en rentrant du vidéoclub. Kim lui dit souvent que les gens sont capables de tout pour se faire remarquer, que c'est comme ça que le 21e siècle va se définir, que tout se vaut entre le monde des corps et le monde des esprits. Nicky pense brièvement à Kim, probablement endormie après une nuit passée derrière ses maudits écrans antiques, à ses gros nénés bruns gorgés de chaud. Elle s'écoute respirer, fin dans le ventre, dont le ventre se fait l'écho. Elle commence à se détendre dans le lit, prête à faire jaillir d'elle une jouissance, mais elle n'expulse qu'une saignée biologique d'anxiété.
« Je vais vous laisser en compagnie de Don't Fall the Chameleons. on a pensé que ce serait de circonstance.
Les arbres bruissent dans la ruelle comme du papier cramé. Un gros charou traverse. Nicky le connaît. Mr. Pince. Bavard, câlin, jamais perdu. Il vient se frotter contre elle, elle le flatte un peu. « Bonjour, Mr. Pince. »
Brrr.
Moni balaye sa terrasse.
« Bon matin, Nicky. Fait chaud. »
Mommy lève le nez vers le ciel.
« Une tempête s'en vient. »
Mommy a 73 ans, des varices qu'elle collectionne comme des vieux timbres. Elle s'habille avec des rideaux aux motifs inuits, serrés à la taille par une ceinture en plastique rose transparent. Elle marche à peine, souvenir des traitements médicaux du passé. Quand les vieux non-propriétaires avaient perdu la guerre des médias et des postes budgétaires, dépassés par la fédération des vaches hublots à méthane et des auteurs de littérature circassienne hochelagaise.
Les cigales, ma chérie.
Nicky tend l'oreille, leur stridence semble étouffée mais moins claire que d'ordinaire.
Tu as entendu parler de cette affaire de raton laveur, dit Mommy. J'ai dû changer les piles de la radio pour entendre la Suisse, mais je crois que je ne veux plus savoir ce qui se passe ici.
Ça va être pire avant d'aller mieux. Mommy sourit, ses dents forment un accordéon rutilant.
Café goûté?
Si je survis à cette journée.
Tu peux me trouver du papier toilette?
Dac.
Mommy fronce les sourcils. Tout va bien, ma chérie?
Juste un rêve. Nicky semble entendre Mommy dire quelque chose entre ses dents, mais la musaque de son accordéon dentaire prend le dessus.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la lecture proposée par nos cinq artistes qui ont été invités par la plateforme Xeno. Je tiens à leur remercier d'avoir prêté leur voix pour nous faire découvrir cinq grands noms de la littérature de science-fiction écoféministe et queer. Merci à Yasmine Ayaten, Passoir, Tilke Wouters, Danse Divine et Gian Imago. Je tiens aussi à remercier Sophie Hustix pour cette magnifique collaboration. Je suis Ishraf Nasri et je suis la fondatrice de Xeno. En deux mots, Xeno est une plateforme artistique dédiée à toute personne qui s'identifie comme femme, en particulier racisée, au cuir et en non-binaire. On est né du constat de la sous-représentation de ces artistes dans la programmation culturelle et artistique, une absence qui met en lumière la réalité des rapports de domination genrée et raciale. Si vous êtes curieux et curieuse de savoir plus sur nos projets et nos activités, et surtout pour découvrir les artistes qui ont fait la lecture aujourd'hui, je vous propose d'aller sur notre page Facebook qui s'appelle Xeno, X-E-N-O. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Au revoir.